Central Park, l'émission qui fait le tour de la question.
Bonjour et bienvenue, vous êtes à l'écoute de la radio Ici l'Ombre, en direct pendant Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements, qui se tiennent en ce moment et jusqu'à dimanche. Vous pouvez nous écouter assis dans l'herbe, dans le parc, sous les arbres, sur la web radio de Radiola, sur Radio BLV, également d'autres ondes amies. Je suis Clara Grisot et j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Marc Jouze dans ce très beau parc de la Baume, mais il est déjà en duplex depuis la montée herbeuse. Bonjour Marc.
Bonjour à vous.
Alors, les rencontres estivales ont choisi de se pencher sur un beau thème, terre, un thème pour ouvrir nos horizons, nos envies d'ailleurs, un thème qui évoque le voyage, l'accueil, le soleil. Là, on est en plein dedans avec les chaleurs écrasantes que l'on connaît actuellement. Et puis, associé aux enfermements, sujet auquel se consacre entièrement Concertina, l'histoire est évidemment différente. Car les terres peuvent être inhospitalières, ce sont aussi les terres que l'on quitte, que l'on fuit, les terres desquelles on peut être chassé, celles où l'on arrive également après de nombreuses épreuves. Il sera donc question de migration, et plus particulièrement des migrations empêchées, de celles et ceux qui, faute d'obtenir des papiers, se retrouvent en situation irrégulière. Nous vous avons invité, Louis Tassin, pour parler de ce vaste sujet de la rétention administrative. Vous qui venez de sortir cet ouvrage « Comme on les enferme » en 2026 aux éditions La Découverte. Bonjour Louis Tassin.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Alors, Louis Tassin, vous êtes sociologue. Vous avez passé plus de 4 mois en immersion dans des centres de rétention administrative dans la région parisienne, là où peu de personnes ont pu enquêter comme vous l'avez fait. Avant de revenir un peu plus en détail sur votre parcours, j'aimerais avant toute chose de se dire que la rétention administrative, qu'est-ce que c'est ? Des CRA, on parle des centres de rétention administrative, des CRA. Alors, avant de prendre l'antenne, nous avons demandé au public de se questionner sur ces termes et de nous dire ce que cela recouvrait pour elles, pour eux. Marc, je vous vois, vous êtes dans le public, micro à la main. Est-ce qu'on peut entendre quelques paroles glanées ici et là ?
Alors, je suis dans la partie tapis d'Orient, presque très près de vous. Et puis, il y a la partie herbeuse, un peu plus fraîche sans doute, où il y a pas mal de gens qui se sont posés aussi un peu plus loin. Voilà, donc, centre de rétention administrative, vous avez sans doute tous et toutes qui êtes là entendu parler des CRA. Au nom de la rétention administrative, on y enferme des personnes étrangères qui sont en contravention avec la législation sur les étrangers. Selon vous, qu'est-ce que c'est que cette notion de rétention administrative ? Ça nous paraît assez central dans l'émission qui va suivre. Donc, qui voudrait proposer une définition de cette notion ? Je peux vous tendre le micro ?
Rétention administrative, c'est différentes détentions, puisque ce n'est pas pénal. Donc, c'est uniquement lié au fait que leur situation vis-à-vis de la régularité de leur séjour n'est pas validée. Et en fait, même s'ils n'ont fait aucune infraction, aucun délit, ils peuvent arriver dans les... Et en fait, le but, c'est de les renvoyer chez eux. Donc, le but de la rétention administrative, c'est de renvoyer les retenues, de les renvoyer chez eux avec les difficultés que ça pose. Après, j'ai lu le livre.
Ah ouais, d'accord. D'où la définition un peu développée. Mais est-ce que...
Ça, c'était page 27, il me semble. Hein.
cette notion de rétention, vous l'avez dit, votre prénom, c'est Catherine, vous l'avez dit, c'est pas de l'enfermement, c'est de la rétention. Donc, c'est pas des gens qui sont détenus, mais retenus. Et... On les met sous clé et ils y restent un certain temps, et un temps certain pour pas mal d'entre eux. Est-ce que quelqu'un pourrait développer un petit peu cette idée de, au nom de quoi ? D'abord, qui décide et au nom de quoi ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ?
C'est la préfecture, je pense, qui décide.
Les prolongations sont quand même décidées par les tribunaux. Il y a le tribunal judiciaire qui se prononce sur les demandes de prolongation, et il y a un appel à la cour d'appel qui a lieu deux jours après. Enfin, nous, c'était à Lyon, c'est comme ça. Et nous, là aussi, on a travaillé sur ce sujet. Donc, on a fait un rapport et on se rend compte que les droits de la défense sont quand même largement oubliés. Voilà.
Je m'éloigne parce que sinon, Louise va dire, mais oh, et moi, elle me fait l'émission avant l'émission. Je vais m'approcher peut-être. Il y a un public qui est composé très largement de personnes, des femmes, voilà, peu d'hommes, mais par exemple, monsieur, votre prénom c'est
Bruno.
Cette notion de rétention administrative, qu'est-ce que ça vous dit?
Pour moi, c'est la prison pour les étrangers en situation irrégulière. Donc voilà, c'est la rétention, oui, retenir, d'accord, mais pour moi c'est une prison.
Louise, vous avez matière, là vous trouvez matière. Quelqu'un veut encore intervenir avant de donner la parole à Louise Tassin?
Et pour les personnes d'ailleurs qui sont retenues au centre de rétention, la plupart, nous on fait partie du collectif des visiteurs du centre de rétention de Sète, et la plupart nous disent, pour ceux qui ont connu la prison, c'est pire en rétention qu'en prison par rapport à leurs droits.
Et l'autorité administrative qui décide de l'enfermement des gens, est-ce qu'ils ont le contact, le lien? Enfin, comment ça se passe entre le préfet, a dit Catherine, et la personne retenue?
Après, c'est la PAF, de toute façon, qui encadre tout ça à l'intérieur du centre de rétention. Hein. C'est la police, des frontières, voilà. Et donc, les personnes sont là malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, de plus en plus, puisque la rétention est de plus en plus longue au fil des années, 90 jours. Et je donne l'exemple du centre que je connais bien, malheureusement, celui de Sète, où une majorité, 42%, sont d'origine algérienne et purgent les 90 jours. Et pour, comme on a vu, depuis un an, deux ans, beaucoup sortent pour d'autres raisons de prison et subissent une double peine, puisque de la prison, ils passent en CRA.
Merci beaucoup. Louise, le CRA de Sète, ça vous parle? Vous êtes déjà allée dans cet établissement?
Alors, je n'ai pas été dans le CRA de Sète. Moi, j'ai travaillé sur un CRA, un centre de rétention administrative qui se trouvait en région parisienne, que j'ai appelé Molnay de manière à préserver, enfin de façon anonymisée, donc de manière à préserver notamment la confidentialité des personnes que j'y ai rencontrées et qui y travaillaient. Mais effectivement, ce premier tour dans le public est déjà très intéressant parce qu'il permet de poser la question du lien entre prison et rétention. Il faut savoir qu'effectivement, officiellement, les centres de rétention administrative, qu'on appelle donc couramment les CRA, sont des lieux d'enfermement administratif et non pénal, ce qui veut dire que c'est un système en quelque sorte dérogatoire au droit commun, puisqu'en droit commun, on ne peut être enfermé que si on a commis une infraction, un crime ou un délit, exception faite de l'enfermement psychiatrique notamment. Mais donc, pour les étrangers en situation irrégulière, il existe ce dispositif qui permet de les enfermer pour un motif uniquement administratif, qu'est l'absence de titre de séjour. D'où ce terme de rétention qui a été créé en 1980. On reviendra sur l'histoire de ces lieux certainement un peu plus tard. Et dès le début, en fait, il y a eu un enjeu terminologique sur comment définir ces lieux qui ne relevaient pas officiellement du régime pénal. Et c'est pour cela qu'ils ont été nommés centre de rétention et non de détention. Alors, pourtant, d'un point de vue architectural...
Ouais. Alors, on va revenir après, parce que l'architecture, on en parlera encore un peu après. L'histoire, on y reviendra aussi. Peut-être, moi, une première question que je voudrais vous poser, c'est que, visiblement, on a des personnes qui sont assez connaisseuses de ce sujet dans le public. Mais, par contre, il y a peu de personnes qui ont pu pénétrer dans les lieux de la façon dont vous l'avez fait. Vous êtes immergé, littéralement, dans un centre de rétention administrative. On imagine que ce sont des lieux qui, quand même, sont tenus à l'écart des regards. Comment est-ce que vous avez pu rentrer dans un centre de rétention administrative?
Alors, il faut effectivement préciser que les centres de rétention sont des lieux très difficiles d'accès. Ils sont difficiles d'accès d'abord géographiquement, parce que souvent, ils sont installés en périphérie des villes, dans des zones éloignées des transports en commun. Ils sont ensuite difficiles d'accès en termes d'autorisation, à la fois pour les journalistes, pour les associations, en dehors de celles mandatées pour y intervenir, mais aussi ils sont difficiles d'accès aux chercheurs. Et donc il y avait eu déjà quelques recherches, notamment sur le rôle de la CIMAD, qui est une association qui historiquement intervient dans les centres de rétention depuis 1984. Mais bon, c'était donc des recherches très intéressantes, mais qui étaient forcément un peu limitées dans l'accès au terrain, puisque la personne avait été employée comme bénévole auprès de la CIMAD. Et donc pour moi, l'enjeu, c'était vraiment de réussir à entrer dans ces lieux en tant que chercheuse, à découvert, pour pouvoir y enquêter en immersion et pour pouvoir documenter les pratiques de contrôle ordinaire qui se jouent dans ces lieux et travailler notamment sur les professionnels à savoir principalement la police qui gère ces dispositifs.
Et vous avez eu accès à l'ensemble des lieux dans le centre de rétention administratif dans lequel vous étiez ?
Non, sans difficulté, effectivement, j'ai fait plusieurs demandes. J'ai d'abord essuyé des refus, enfin d'abord des silences, ensuite des refus. J'ai du coup dû réadapter les sollicitations que j'avais faites, les revoir à la baisse. Mais finalement, ce qui a été ma chance, en quelque sorte, c'est qu'après plusieurs échanges, la préfecture m'a finalement autorisée à venir en centre de rétention à travers un courrier très succinct qui ne comportait que quelques lignes me disant qu'ils accédaient à ma demande sans en préciser les conditions, alors même que dans les échanges précédents, c'était beaucoup plus fermé. Et donc finalement, quand j'ai rencontré pour la première fois ce chef de centre du centre de rétention de Molnay, je ne sais pas s'il n'avait pas eu ou pas pris connaissance des échanges qui avaient précédé, mais toujours est-il qu'il m'a effectivement présenté aux représentants de chaque service dans les centres de rétention et que j'ai pu ensuite mener mon enquête, mener des observations, mener des entretiens avec tous les différents corps professionnels qui interviennent dans ces lieux ainsi que des personnes enfermées.
Justement, les personnes retenues, qu'est-ce qu'elles comprennent de la notion qu'on essaye de questionner là, dès le début de l'émission, rétention administrative, ça leur parle ?
Bah, ça leur parle et ça leur parle de façon très difficile. Ça a été pour moi une des grandes surprises parce que j'ai travaillé non seulement sur le cas français, mais j'ai aussi mené des enquêtes sur l'île de Lesbos à la frontière gréco-turque et sur l'île de Lampedusa qui se situe à plus de 300 km au sud de la Sicile. Et en fait, dans ces trois pays, dans ces trois lieux, alors même que les centres de rétention revêtent des conditions matérielles d'enfermement très différentes, avec des régimes, des standards, des normes assez disparates, eh bien, partout s'exprimait en fait un même sentiment, non seulement de refus de l'expulsion, mais aussi et surtout le refus et un sentiment d'injustice d'être traité comme un criminel. Et donc ça, c'est un des axes transversaux de mon travail, que d'aller questionner la criminalisation des personnes étrangères que produit la rétention, que produit le recours à l'enfermement. Qu'est-ce que ça fait d'enfermer ces personnes pour un motif uniquement administratif. Et évidemment, ce qu'on voit, c'est que ça entraîne des amalgames entre étrangers et délinquants parce que ça contribue à associer la figure du sans-papier à la figure du criminel, non seulement dans l'espace public, mais aussi dans l'esprit de celles et ceux qui y travaillent.
Le fait que la police soit présente dans ces lieux contribue, selon vous, à cet amalgame ?
Oui, bien sûr. Donc ce sont des lieux qui sont principalement gérés par la police, qui relèvent du pouvoir régalien des États. Mais une seconde surprise de mon enquête a été de constater le rôle que jouent également des prestataires privés, c'est-à-dire des prestataires de services à qui toute une partie de la gestion quotidienne de ces lieux est sous-traitée. Alors ça se décline de façon différente selon les centres de rétention en France parce que ces prestations de services relèvent de marchés publics locaux, mais il y a aussi donc tout un pan d'acteurs privés qui interviennent.
Aujourd'hui, on est retenu, quand on est étranger et qu'on n'a pas les papiers adéquats, on est retenu pendant combien de temps ? Une personne dans le public précisait qu'il y avait des recours à un juge pour prolonger les périodes de détention. On en est où ? Parce que ça ne cesse d'évoluer et d'augmenter. Hein.
Absolument.
Les durées.
Ça ne cesse d'augmenter. La première loi en 1981 visait à limiter à 6 jours la durée de rétention administrative. Mais depuis, cette durée maximale n'a cessé d'être prolongée pour passer à 10, puis 12, puis 32, puis 45 et désormais 90 jours. 90 jours qui peuvent même, dans certains cas, être prolongés jusqu'à 210 jours. Notamment pour des personnes condamnées pour terrorisme ou, depuis la dernière loi en date sur cette question, également pour des personnes au motif du trouble à l'ordre public, motif qui a été largement décrié et dénoncé par les associations ainsi que des acteurs juridiques et des organisations d'avocats pour le flou qu'elle revêt et l'idée qu'on pourra mettre en fait aussi en rétention à travers cette notion beaucoup de personnes pendant encore plus longtemps.
Donc l'histoire d'une personne retenue commence avec un contact avec la police, on est d'accord, dans la vie à l'extérieur. Ensuite, elle a le contact avec qui les juges dont on vient de parler, qui prolongent, elle les voit, il y a un débat contradictoire, comment ça se passe? Parce que Préfecture, oui, mais c'est abstrait. Ce n'est pas le préfet qui se déplace pour aller discuter avec les personnes retenues, on est d'accord.
On est d'accord. Non, ce n'est pas ça. Effectivement, les personnes sont arrêtées. Alors, se pose la question de comment elles sont arrêtées, parce qu'aujourd'hui, officiellement, on n'a pas le droit de faire de contrôle au faciès en France, donc de contrôler l'identité des personnes a priori. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a très souvent des opérations d'arrestation massives dans certains quartiers, identifiés comme étant des quartiers comportant une vaste population d'étrangers. Et donc, dans ce cadre-là, on découvre que des personnes sont en situation irrégulière et c'est à ce titre-là qu'elles sont ensuite placées en centre de rétention. Et après, il y a différents délais au cours desquels elles vont voir d'abord un juge des libertés et de la détention, donc un JLD, qui lui doit se prononcer sur la procédure. Est-ce que la procédure d'arrestation et de placement en rétention a bien été respectée? Et elles peuvent ensuite faire appel de la mesure d'expulsion elles-mêmes devant le tribunal administratif, comme l'expliquait madame, auquel cas, là, les personnes doivent faire la preuve de leur intégration, entre guillemets, en France. Et donc, c'est un système juridique très compliqué, en fait, à saisir, un droit qui est compliqué à saisir en soi et qui l'est plus encore quand on est étranger, qu'on ne maîtrise pas forcément toujours très bien la langue, même si, attention, en centre de rétention, il y a régulièrement des gens qui sont enfermés alors que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont en France.
Peut-être l'idée serait de revenir sur l'histoire de la rétention administrative. Et alors, je vous propose de remonter un peu le temps et de s'intéresser à la rétention de personnes étrangères. Et remontons même au moment de la Première Guerre mondiale où les ressortissants d'autres pays sont enfermés sur simple décision administrative. À cette époque, on compte en France 70 camps d'enfermement. Il faut attendre 1938 pour qu'un décret vienne encadrer la situation qui prévoit ainsi l'enfermement des étrangers expulsables avant leur renvoi dans leur pays d'origine.
38, c'est donc Gers, Rivesaltes, les camps où on enferme les républicains espagnols et tous les gens dits étrangers indésirables.
Exactement. J'allais y venir. On pense effectivement au camp de Rivesaltes, à l'origine campement militaire récupéré par le régime vichiste. D'une capacité de 18 000 personnes, il en compte, tenez-vous bien, 21 000 entre 1941 et 1942. Et puis, on fait un petit saut dans le temps. En 1975, c'est l'affaire de la prison clandestine de Haranx, située sur le port de Marseille, qui défraye la chronique. Les citoyens apprennent que la préfecture de police procède à l'enfermement des étrangers en instance d'expulsion, en dehors de tout contrôle extérieur. L'affaire se mue en scandale. On peut penser au film « Un hangar sur le port » d'Olivier Bertrand, qui retrace cette histoire. Et le gouvernement, acculé, tente de régulariser a posteriori la situation. D'ailleurs, il y a vraiment un mouvement d'opposition vif qui bouge en fait le gouvernement à légiférer. Donc il y a pas mal d'atermoiements législatifs. Et puis, alors curieusement, c'est après l'élection de François Mitterrand que les CRA, les centres de rétention administrative, sont légalisés. Et donc qui institutionnalisent ces lieux de privation de liberté contrôlés et qui ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire comme ça avait été le cas pendant un bref instant, mais bien du ministère de l'Intérieur. Donc voilà. Et alors,
comment la gauche justifie cette décision, juste ouais. En passant?
C'est intéressant, c'est qu'en fait, au départ, justement, la première loi donc sur les centres de rétention, qui date de 1981, elle s'appelle la loi Questio, du nom de la ministre des Solidarités et des Affaires Sociales, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle est justifiée, cette loi, au départ, précisément dans une mesure de protection des droits pour mettre fin à des pratiques qui, jusque-là, avaient lieu dans des espaces tenus secrets, soustraits à toute protection juridique. Sauf qu'en fait, avec cette loi, eh bien, c'est la première pierre qui est posée d'un dispositif, du dispositif tout répressif qu'on connaît aujourd'hui.
En 1999, chose intéressante, Sixte Ugolini, avocat marseillais et puis président du syndicat des avocats de France, le SAF, estime « La France n'a fait que légaliser cette situation de non-droit et pour les étrangers, rien n'a changé. L'interprétation du droit qu'on leur applique reste le reflet de notre société et de la xénophobie qui la caractérise. » Bon.
Et plus encore même, parce que ce qu'on observe, c'est donc que la durée maximale de rétention ne va cesser d'être prolongée. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que pour expulser une personne, une expulsion, elle est soumise à deux conditions. Premièrement, l'identification du pays d'origine de la personne. Et deuxièmement, l'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités de ce pays. Or, l'obtention de ces laissez-passer, elle est tributaire de négociations, de marchandages entre les pays.
D'accord entre pays.
Exactement, d'accord entre pays. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en gros, soit on arrive à réunir ces deux conditions, soit on n'y arrive pas. Et donc les chiffres sont très clairs. Soit on arrive à expulser la personne, et en fait, quand expulsion il y a, elle a toujours lieu, ou très très majoritairement, dans les 30 à 40 premiers jours de la rétention. Et donc alors même que ce prolongement permanent de la durée de rétention a été justifié politiquement comme une manière d'expulser davantage, eh bien les chiffres montrent que c'est l'inverse, parce qu'en fait les gens sont enfermés plus longtemps sans pour autant être davantage expulsés.
En sachant déjà qu'ils ne pourront pas être expulsés.
Exactement, ce qui suggère que la rétention est devenue une mesure punitive qui ne dit pas son nom.
Je propose qu'on fasse une courte pause musicale. On écoute Gaël Faye, Pili Pili sur un croissant au beurre.
Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux. Orpailleur d'horizon, y'a que des hôtels mille étoiles, pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, qui croient sans beurre, qui français qui flâne, lisez qui est roi, qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature, et de pays en pays, il pédale, et de guerre en maladie, il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre, et la terre des ancêtres était un vaste mouroir, et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HR qui glisse aux parois, et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Le mur de sa chambre au vert papier peint, recouvert de posters de salut les copains, était son antre, où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris, en attendant le bus. Sous un arbre en fleurs, son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle est île, aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un lit, d'un croissant beurré, d'un piment swahili, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie, malgré toutes les routes crevées d'ornières, dans le panache de poussière de saisons blanches et sèches, malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Aucune écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili pili, rêver de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Ils se croisent, décroisent les chemins, laissent les enfants au carrefour des destins.
Le super chint de Manon qui est à la technique cet après-midi sur Ici l'ombre, la radio qui accompagne Concertina depuis sa création, depuis 6 ans, la radio des enfermements. Là, on est dans Central Park et on réfléchit sur les centres de rétention administrative, avec notamment Louise Tassin, chercheuse en sociologie, spécialiste de cette question, et le public ici présent à l'ombre d'une grande bâche. C'est une nouveauté cette année, magnifique. Hein. Ça va
Ça s'appelle une toile d'ombrage, voilà. Hein, c'est pas vraiment une bâche, parce que sinon on cuirait
en
dessous.
Et puis donc, oui, et aussi les arbres hein, qui sont juste un petit peu plus loin. Voilà, donc à ce stade de l'émission, je vous propose maintenant d'écouter une personne qui a connu la rétention. C'est un homme qui s'appelle Mo, M-O-H, c'est son vrai prénom, il n'a pas souhaité en changer. Je l'ai rencontré à la mi-mai dans la commune de l'agglomération lyonnaise où il vit actuellement, entre la fin 2020 et le début 2021. Donc d'abord, Mo est arrêté par la police, enfermé dans le centre de rétention administrative de Lyon-Satolas, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Il est en contravention avec la loi qui régit la présence des étrangers sur le territoire français. Et il est retenu pendant près d'un mois dans ce CRA de Satolas, puis expulsé vers l'Algérie, dont il dit pourtant « ça n'est pas mon pays ». Mais on l'expulse, il arrive à Alger, il est emprisonné pendant plusieurs semaines par les autorités algériennes qui finissent par le renvoyer en France. Donc la France paye le billet aller et retour et il est réenfermé au CRA de Satolas. Il est finalement libéré comme pratiquement tous ses co-détenus pour cause d'épidémie de sida. Vous vous rappelez, on a vidé entre guillemets les CRA comme on a vidé les prisons au moment de la pandémie. Et voici comment...
De Covid ?
La pandémie de Covid, oui, pardon. Voici comment Mo raconte ses deux séjours au CRA de Lyon-Satolas.
En arrivant là-bas, ça ressemble un petit peu à des containers. Ça sent un peu le bois, le plastique des containers, là. Et en arrivant, c'était un grand bureau un peu ovale. Il y avait des policiers partout. Donc moi je disais mais j'ai rien fait, pourquoi je vais être enfermé ici en prison et tout. On m'a précisé que c'était pas une, je suis pas un prisonnier, j'étais juste un retenu. Donc là ça change tout d'après eux. Et surtout que eux, pour eux, c'est pas eux qui décident, c'est la préfecture. Donc et toi t'as pas le moyen de parler avec la préfecture, donc il y aura jamais l'explication exacte. Tu vas jamais comprendre en vrai. T'es là, t'es enfermé. Pourquoi ? Parce que t'as pas de papier. C'est pas des bâtiments, c'est des containers. C'est des longs couloirs containers à gauche à droite. À l'intérieur, t'as trois lits doubles. Des fois, on était même 8, 9, parce qu'il y en a qui dorment par terre. Il y a une petite télé coincée là-haut. Et un douche en plastique, tout en plastique en fait. Surtout, tout est fermé comme une cage. Donc, on ne peut pas voir le ciel directement. Il y a toujours une cage au-dessus où tu vas, il y a des barrières partout, partout. Tout le monde est stressé, ce qui est normal. Des fois, c'est un peu agressif. Moi, je suis tombé sur des gens qui étaient agressifs, qui n'ont pas voulu m'accepter dans leur cellule. J'ai dû changer et tout ça. Donc, c'est toujours stressant cet endroit. C'est vraiment le stress. Toujours parce que t'as des policiers autour de toi. T'es enfermé. Tu sais pas vraiment pourquoi, quelle raison, jusqu'à quand. Tout ça, ça fait que les gens, ils sont stressés, quoi. Le quotidien, déjà, tu te lèves à 8h du matin. On te fait sortir de ta chambre par force. Parce qu'ils doivent tout fermer et soi-disant nettoyer, mais eux, ils fouillent. Après nous, de 8 à 10, on est dehors. Après, de 10, ils t'ouvrent les chambres, les cellules. Rien, on fait rien. On est soit dehors, assis sous le mur, ou bien on est allongé sur le lit, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien à faire. C'est une petite cage, en fait. Il n'y a rien. T'es là, tu passes ta journée à fumer des clopes et boire du café, quoi. Il n'y a aucune activité, zéro. Au moins deux à trois fois par semaine, il y a des bagarres avec des policiers, on se fait gazer. Ils nous traitent comme des mouches. Pour eux, on n'est rien du tout. Donc, on doit écouter ce qu'ils disent, et fermer notre gueule. Et voilà, si tu n'acceptes pas ça, ben, on te gaze direct. Le gaz qui parle en premier là-bas. Moi, je me suis fait gazer 5-6 fois là-bas, gratuitement, comme ça. Juste parce que j'ai discuté un peu ou j'ai augmenté un peu la voix, on me gaze.
Louis Tassin, gazé comme des mouches, ça correspond, le témoignage de Mo, à la réalité que vous avez découvert en vous immergeant dans ce CRA de région parisienne ?
Absolument. Et je trouve que ce témoignage est particulièrement parlant. J'y vois trois choses. Là, principalement, qui résonnent fortement avec effectivement les témoignages que j'ai pu moi-même recueillir et puis ce que j'ai observé surtout au quotidien dans ces lieux. La première, c'est la manière dont cet homme évoque l'architecture, les espaces des centres de rétention. On a bien dit qu'il s'agissait d'un dispositif administratif et pourtant tout, d'un point de vue matériel et architectural, ressemble à des prisons. Ce sont des lieux qui comptent des miradors, de la vidéosurveillance, mais aussi des cours qui sont grillagés parfois jusqu'au plafond, comme c'est le cas dans le centre que j'ai étudié, mais comme c'est le cas aussi dans ce que décrit cet homme, si bien que les retenues l'appellent la cage. Et en même temps, il nous décrit des containers. Et ça, c'est intéressant parce que ce que ça dit aussi, ça dit quelque chose des projets d'extension qui ont lieu en ce moment de centres de rétention, où en fait, on a essayé d'agrandir. Le gouvernement a mis en place plusieurs projets pour agrandir des centres de rétention et où en construire de nouveaux. Et en fait, il y a aussi une forme de disparité dans ces centres de rétention si on regarde à l'échelle européenne, puisqu'il y a des centres qui sont ultra sécurisés, comme c'est le cas plutôt en France, mais l'enfermement, c'est largement généralisé aussi à l'échelle européenne, et là, sous des formes complètement disparates, donnant lieu à un nouveau paysage des camps, de ces centres de rétention, qui vont de containers à moitié abandonnés à ces centres ultra sécurisés.
Parce que, si je ne m'abuse, il y a des centres de rétention administrative, mais il y a également ce qu'on appelle des LRA, des locaux de rétention administrative. Alors, qu'est-ce que c'est que cette différence ? Les personnes y restent moins longtemps,
Exactement.
Quel est leur statut ?
Alors en France, il y a 25 centres de rétention administrative et à peu près autant de locaux de rétention administrative qu'on appelle en effet des LRA, dans lesquels les personnes peuvent être retenues, selon la terminologie officielle, jusqu'à 48 heures maximum. Il y a donc 25 centres de rétention, mais il y a plusieurs projets de centres en cours de construction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2000 places de centres de rétention et le gouvernement projette d'atteindre 3000 places d'ici 2027. Alors là, c'est en train d'être étendu à 2029, mais il y a plusieurs projets de construction de centres de rétention en cours, par exemple à Dijon, à Béziers, à Nantes, et autant de collectifs locaux, de riverains, de militants qui s'opposent à ces projets de construction.
2000 places en France, elles sont remplies ?
Elles sont remplies.
On parle de la France hexagonale ou on parle également il existe des centres dans les territoires ultramarins ?
Oui, absolument. Quand les chiffres sur la France en entier, donc en comptant les territoires ultramarins, c'est 40 à 50 000 personnes qui sont enfermées chaque année dans ces lieux. Et la question des territoires ultramarins est très importante parce qu'à Mayotte en particulier, il existe un régime dérogatoire qui permet de renvoyer les personnes sans qu'elles aient vu de juge et qui permet également l'enfermement des enfants qui est interdit aujourd'hui en France hexagonale.
D'accord. Marc, vous êtes retourné dans le public, au frais.
Oui, c'est vrai qu'on est bien là, on est mieux que sous la guitoune de Ici l'ombre. Donc pour tendre mon micro à des personnes qui souhaiteraient intervenir sur ce chapitre des conditions de rétention dans les CRA. Louise, vous avez réagi au témoignage de Mo en parlant de l'architecture des lieux. Il y a la question de l'oisiveté qu'il évoque et puis cette histoire de gaz qui est quand même spécialement impressionnant. Il dit dès qu'on a une parole qui dérange les gardiens, paf, on nous gaze comme des mouches.
Oui, absolument. Là, vous pointez deux choses qui correspondent aux deux autres choses, effectivement, que je souhaitais souligner. La deuxième, en effet, c'est cette question de l'oisiveté. C'est-à-dire que comme ces dispositifs ont été créés au départ pour une durée censée être limitée, il n'y a effectivement aucune activité ou presque qui est prévue dans ces lieux, si bien que les gens s'y retrouvent enfermés sans autre occupation.
C'est-à-dire que là, on voit quand même, pour le coup, vraiment la différence avec une prison, puisque la prison a vocation, en tout cas dans les textes, de punir, mais de réinsérer. Et donc, il y a toute une batterie quand même d'activités, même si ça concerne parfois que certaines personnes, que certaines catégories, et que en raison aussi de la surpopulation carcérale, toutes les personnes qui devraient en bénéficier n'ont pas accès à ces activités de réinsertion. En centre de rétention administrative, ces dispositifs sont totalement absents, puisque la vocation est juste de les maintenir en attendant leur expulsion.
De les maintenir à l'écart et de les renvoyer. Ce qui fait d'ailleurs dire régulièrement à des personnes qui sont passées par la prison auparavant que la rétention serait pire que la prison. Donc à la fois parce qu'effectivement il n'y a pas d'occupation, mais aussi et surtout parce qu'on ne connaît ni l'issue ni la durée de l'enfermement. Et que ça, c'est particulièrement anxiogène. À quoi se rajoute le troisième élément que vous avez mentionné et dont rend très bien compte ce témoignage, c'est la question des violences. Les violences dont les centres de rétention sont émaillés au quotidien. Violences policières et violences de l'enfermement qui est telle qu'on ni trouve des tentatives de suicide, des automutilations, des conflits extrêmement réguliers en effet. Il faut savoir que les centres de rétention sont des lieux attestés d'atteinte aux droits, qui sont documentés de longue date, à la fois par les acteurs associatifs qui y travaillent, mais aussi par des autorités indépendantes comme le défenseur des droits ou le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Marc. Alors, je me suis approché des gens présents là. Ils sont tellement bien à l'ombre, posés là, que personne n'a envie vraiment de prendre la parole. On me dit non, on écoute avec attention. Sur les conditions de détention, personne n'a envie de...
Faut en profiter. Louis Tassin fait partie d'une des rares personnes à avoir pu s'immerger pendant 4 mois. C'est le moment de poser des questions.
Oui, moi, c'est un petit peu différent, mais dans le livre, vous avez une expérience, 3 expériences différentes. Une dans un centre de rétention administratif vers Paris, une à Lampedusa... et une à Lesbos. Et c'est assez intéressant de les comprendre quand même. Et je voudrais savoir si vous aviez, en quelques mots, quelle différence vous faites entre ces 3 façons d'enfermer. Bon, le résultat est à peu près le même. Mais c'est très intéressant de voir comment ils se sont intégrés dans leur, ou pas dans, leur, dans, leur, dans l'environnement.
Alors, en effet, une des questions que j'ai explorées, que j'ai commencé à mentionner tout à l'heure à partir du cas français, c'était la question des formes d'externalisation du contrôle migratoire à des acteurs non étatiques, à des acteurs privés. Et en fait, la comparaison avec la Grèce et l'Italie, elle est très intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle permet d'observer une autre forme de délégation du contrôle migratoire qui, cette fois-ci, est une forme de délégation aux habitants. Sur l'île de Lampedusa, bon, que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, parce qu'elle est devenue aujourd'hui un emblème des arrivées de personnes en situation de migration aux frontières. Mais il faut bien savoir que cette île, elle a été construite comme une île frontière. Elle n'était pas naturellement un lieu de passage, mais c'est une île qui a largement été militarisée et qui ensuite est devenue touristique parce qu'il y avait une base de l'OTAN qui avait été installée sur l'île au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui a eu des bombardements ratés de Kadhafi en 1986, et que cette île, qui était jusque-là complètement méconnue, a suscité à ce moment-là l'intérêt des journalistes qui ont rendu visible la beauté de ces criques, de ces paysages. Et donc, à partir de là, la ressource principale de l'île est devenue le tourisme. Et ça a été un élément très important parce que l'île présentait à ce moment-là pour les autorités un support à la fois symbolique mais aussi matériel avec toute la militarisation pour tenir à l'écart les populations migrantes qui peu à peu ont été interceptées en mer. Il y a effectivement des embarcations de Tunisiens qui viennent jusqu'à l'île, mais sinon les embarcations qui viennent de Libye, c'est très rare qu'elles atteignent d'elles-mêmes les rivages de Lampedusa. Ce sont bien les gardes-côtes, les bateaux de la douane qui vont les intercepter en haute mer. Et donc, comme l'île est devenue une île touristique, eh bien, l'installation du premier centre de rétention d'Italie à Lampedusa en 1998 a fait l'objet, là aussi, de beaucoup de contestations parce que les acteurs du tourisme craignaient que cela porte préjudice à l'image accueillante de l'île. Et en même temps, ce que je montre, c'est que c'est très ambivalent parce que ce centre est aussi devenu en fait un foyer d'emploi pour des travailleurs, pour la population précaire, également pour les fournisseurs et même pour ses propres acteurs du tourisme, de l'hébergement, de la restauration, avec la venue notamment de forces de l'ordre en grande quantité, d'ONG internationales, etc.
Justement, sur cette question de l'emploi, j'aimerais qu'on s'attarde davantage sur un autre aspect développé dans votre livre que vous avez évoqué un petit peu plus tôt. Donc, dans « Comme on les enferme », votre livre, vous expliquez que l'on sous-traite le suivi et l'accompagnement des personnes retenues. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la façon dont vous dépeignez aussi ces professionnels, finalement, qui sont issus aussi, enfin, qui déjà occupent un emploi précaire et qui eux-mêmes parfois sont issus d'une trajectoire de migration et donc qui ont parfois eux-mêmes connu l'expérience d'être sans papier et ils se retrouvent dans ces centres de rétention administrative à avoir la charge de ces personnes retenues.
Absolument, oui. Effectivement, l'un des effets principaux de l'externalisation dans le cas français, c'est que ça a transformé la sociologie des gens qui travaillent en rétention, puisque interviennent désormais donc des équipes de prestataires de services, et les équipes de ces prestataires sont constituées quasi uniquement de populations immigrées ou d'origine immigrée, dont un certain nombre ont été sans papier à une époque, ou risquent de le devenir parce qu'ils et elles ont des statuts juridiques précaires, notamment le statut d'étudiant étranger, dont on sait qu'il peut vite enfin qu'il est difficile à transformer en titre de travail. Et donc je me retrouve moi par exemple à passer du temps auprès d'un homme qui s'appelle Alain et qui au bout de plusieurs rencontres me confie qu'en fait son titre de séjour est en cours de renouvellement à la préfecture, qu'il n'a pas de nouvelles et il se met à rire de façon angoissée en me disant qu'en fait c'est peut-être lui qui dans les prochaines semaines se retrouvera de l'autre côté des barreaux. Et c'est intéressant parce que ça peut paraître paradoxal de se dire quoi, il y a des anciens sans-papiers qui travaillent en centre de rétention, mais en fait ça n'est paradoxal qu'en apparence parce que ce que ça dit, c'est ça dit quelque chose de la segmentation raciale du marché du travail et du fait que sont surreprésentées dans les métiers subalternes les populations immigrées. Et par ailleurs, voilà, ça dit aussi quelque chose des contradictions de nos politiques migratoires, puisque la lutte contre l'immigration dite irrégulière occupe une place très importante sur la scène politique, sur la scène médiatique, alors même que tout un pan de l'économie, y compris dans les institutions publiques, repose sur la main-d'œuvre corvéable que représentent les étrangers.
Et d'ailleurs, en parlant de professionnels, j'ai rencontré une personne qui œuvre dans les centres de rétention administrative, ou plutôt, je devrais dire, œuvrait, puisque elle a travaillé durant 2 ans au centre de rétention administrative de Bordeaux, avec la CIMAD, l'association dont on a parlé plus tôt, et puis plusieurs mois dans les 2 centres de rétention administrative de Lyon, cette fois-ci, Forum Réfugiés. Elle s'appelle Émilie-Charlotte Caron. Elle a quitté l'association de Forum Réfugiés, en partie aussi pour en raison de ses conditions de travail. Donc vous allez voir, on l'écoute.
Le CRA 2 de Lyon, donc, qui est le plus récent, on voit rien. C'est-à-dire qu'on entre dans un bâtiment, on sonne à une porte, la porte s'ouvre, on arrive à une zone où il faut donner un badge et récupérer un badge et laisser sa carte d'identité. Toutes les portes sont magnétiques. On nous fournit un seul badge qui nous permet de déverrouiller des portes et la seule chose que l'on voit, c'est des murs blancs. On ne sait pas ce qui se passe, on ne voit rien, il n'y a pas de fenêtres, il y a des... Les seules fenêtres qu'il y a, c'est des toutes petites fenêtres avec des barreaux dessus sur les dans les couloirs. Donc on ne voit rien, on ne voit que des murs blancs et notre bureau. Et c'est tout. On n'a aucun accès sur l'extérieur ou quoi que ce soit. Dans certains bureaux de l'association, il y a des grillages, des grilles qui se trouvent entre les juristes et les personnes retenues. Donc là où on pourrait penser que c'est pour des questions de sécurité ou quoi que ce soit, moi ce que j'ai pu constater c'est que finalement à traiter les gens comme des animaux, les personnes se comportent comme des animaux. Donc là où à Bordeaux par exemple, les personnes avaient accès à nous librement, il y a très peu eu de débordements parce qu'on pouvait très facilement apaiser les tensions dès qu'elles naissaient. Là où, à l'inverse, s'il y a une grille, en fait, entre moi et un autre être humain, à la moindre frustration, en fait, ça peut dégénérer. Ils vont ouvrir la ZAC et les personnes ont 1 heure pour décider d'aller voir ou le médecin, ou l'unité médicale, ou l'association. Sachant que l'association, en fait, elle a carrément dû limiter l'accès aux personnes à 1 demi-heure par jour, parce qu'en fait, c'était pas possible pour les salariés de recevoir continuellement des gens dans leur bureau. Parce que concrètement, quand le travail que tu as, c'est de rédiger des requêtes, d'expliquer les droits aux personnes, si quelqu'un rentre dans ton bureau toutes les 5 minutes, tu ne peux pas rédiger une requête. C'est pas possible. En fait, les conditions de travail ne permettent pas de pouvoir faire quelque chose de vraiment carré, parce qu'en fait, tu vas être dérangé toutes les 5 minutes par une nouvelle sollicitation, et que le téléphone il va sonner en même temps, et que donc quelqu'un rentre dans ton bureau, et que tu étais en train de rédiger quelque chose, donc tu dois arrêter de rédiger, tu dois recevoir la personne, elle te pose une question, tu dois regarder dans son dossier, ensuite tu sais plus ce que tu étais en train de faire, et là derrière toi, il y a un policier qui rentre dans ton bureau pour te poser une question. En fait, t'es sollicité constamment, et donc ça permet pas du tout de travailler dans des bonnes conditions, en fait. Et ça, c'est le fonctionnement du CRA qui fait que c'est comme ça. Et c'est problématique pour tout le monde, que ce soit pour les salariés, pour les personnes retenues, et j'irais même à dire, même pour la police. Et le problème, c'est que là, ce CRA, là, le CRA dont je parle, le CRA 2 de Lyon, est considéré comme le modèle de CRA du futur. Donc là, à Bordeaux, à côté de Bordeaux, à Mérignac, ils sont en train de construire un CRA qui est basé sur ce modèle-là, alors qu'on sait qu'il est complètement défaillant. Ah non, mais le CRA par nature ne devrait pas exister, mais quitte à faire un CRA, autant faire en sorte que les personnes qui y travaillent puissent faire leur travail dans de bonnes conditions pour pouvoir accompagner effectivement les personnes dans leurs droits. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre des associations dans des CRA, si les associations ne peuvent pas faire leur travail, ça sert à rien.
Une réaction, Louise Tassin ?
Je pense que ce témoignage, il est très parlant sur le travail associatif en rétention et donc la différence entre le droit et l'accès effectif au droit. Et donc sur les conditions d'accès au droit et les conditions d'exercice de l'aide juridique en rétention. Il faut savoir que donc la CIMAD intervient depuis 1984 dans les centres de rétention, mais ce travail d'aide juridique, il n'a cessé d'être remis en question. Notamment au gré de différentes réformes qui visaient à museler les critiques. Notamment en 2009, où il y a eu toute une réforme qui avait pour objectif de faire disparaître tout simplement l'aide juridique aux retenus. Finalement, il y a eu une contestation de ces acteurs, mais quand même, l'aide juridique en rétention s'est transformée en marché public et c'est donc à partir de là que désormais, donc les associations, plusieurs associations peuvent postuler, et l'aide juridique en rétention est désormais répartie par lot géographique, non seulement donc avec la CIMAD, mais aussi Forum Réfugiés, la SFAM, SOS Solidarité, France Terre d'Asile, etc. Donc on voit qu'il y a des entraves au niveau juridique. La dernière réforme, par exemple, il a été question de remplacer l'association par l'OFI, qui est l'Office français d'intégration et de l'immigration, qui est en fait une instance étatique qui ne permet en rien de soutenir les droits des personnes enfermées. Mais on voit aussi les difficultés matérielles et la manière dont, au quotidien, il y a aussi une difficulté à exercer ce travail d'aide juridique aux étrangers, alors même qu'il est évidemment crucial pour le respect de leurs droits fondamentaux.
Alors, il y a les conditions de l'aide dans lesquelles elle est dispensée, la marchandisation de cette aide, c'est-à-dire devoir répondre à un appel d'offres. Est-ce que ça touche pas aussi à l'éthique de ces organisations? Je me réfère au témoignage de Mo qu'on a entendu tout à l'heure. Je lui ai posé hors micro la question de et les associations, est-ce qu'elles vous ont fourni une aide? Et il m'a dit, la CIMAD, attention, c'est un piège. Alors, deux principaux soucis, c'était que je donne mes papiers, notamment mon passeport, que je leur fournisse mes documents officiels et que je dise la vérité sur mon parcours d'exil. Attention, méfiez-vous. Voilà, c'est le témoignage de Mo qui date du coup d'une expérience début des années 2020. Mais je vous le livre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, dans mon travail, je ne me suis pas concentrée sur la question de l'aide juridique en rétention, précisément parce qu'il y avait déjà eu des travaux là-dessus. Là, je renverrai surtout aux travaux de Nicolas Fischer, qui est un sociologue qui a fait un travail vraiment passionnant sur cette question. Mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'il montre toutes les ambivalences, en fait, de l'aide juridique en rétention. Il montre notamment comment est-ce que l'intégration progressive de représentants de l'état de droit dans ces dispositifs a finalement contribué aussi, in fine, à légitimer ces espaces. C'est-à-dire que, avant, la question qui se posait dans le débat public, c'était celle de la pertinence, de la légitimité ou non du recours à l'enfermement pour les étrangers en situation irrégulière. Et en fait, on est passé de ce débat-là à des débats beaucoup plus consensuels sur les conditions matérielles du maintien. Et c'est vrai que moi, un des enjeux pour moi qui devrait être davantage rendu visible, questionné aujourd'hui, et j'espère que ce livre sera l'occasion de porter cette question-là, c'est vraiment de remettre au centre de la table la question de la légitimité ou non du recours à l'enfermement.
Alors, on va redonner brièvement la parole à Mo. Il a connu l'expérience d'un autre centre de rétention en 2022. Il y a eu un parcours mouvementé. Voici ce qu'il dit des conditions de rétention qu'il a connues là-bas.
Le pire coin que j'ai jamais vu sur cette terre, c'est l'écran. Même les prisons, c'est un peu mieux, on va dire. Tu sais pourquoi t'es là, tu sais quand tu rentres, quand tu sors, tu sais gérer tes journées, tu sais prendre un peu le temps de faire des choses. Là-bas, rien, on t'autorise même pas d'avoir des stylos. Les stylos, c'est interdit. Parce que pour eux, c'est une arme briquée pour allumer une cigarette. Et tu dois appeler le policier à chaque fois, qui vient une heure après pour fumer ta clope, quoi. Humanité, il n'y en a pas, ça n'existe pas chez eux. Zéro. Une fois, il y a eu une tentative d'évasion. Il y avait deux gars qui ont essayé de se barrer. Donc, ils sont venus, ils ont gazé tout le monde, ils nous ont tapé tout le monde. Ils ont raté personne. Avec les matraques, ils nous ont frappé. C'est pas, ils ont frappé, quoi. Et t'as le droit de rien dire. L'écran, c'est l'enfer. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'un endroit pareil existe, tu enfermes des gens sans procès, soi-disant parce que t'as pas un morceau de papier, mais c'est pas possible. Faut vraiment, c'est pas que les fermer, faut vraiment les brûler tous. Parce que c'est inhumain, c'est un droit, c'est inhumain. Je sais pas ce qu'ils font là-bas, aux Pays-Bas, là, pour le le truc des humains là, mais il faut qu'ils viennent, ils voient ça. Ils ont même allongé la période d'incarcération. Et ça, c'est pas possible. Il faut vraiment se battre contre ce genre des endroits. Il faut vraiment tout donner pour que ça n'existe plus. C'est inhumain.
Louis Tassin, il est clair et net, hein, moi, il dit qu'il faut les supprimer. Alors, comme chercheuse, je ne sais pas jusqu'où va votre positionnement, votre engagement. Bon, on aimerait quand même avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'ils sont réformables, ces CRA, ou est-ce qu'il faut, bon, par exemple, l'évocation des violences où il subit avec tous les personnes co-retenues un tabassage en règle, voilà. Même dans les prisons, à notre connaissance de citoyens qui est limitée, mais est-ce qu'on voit encore ça, quoi ?
Alors, plusieurs choses. Oui, sur les violences policières, on le voit. Et ça a été d'ailleurs une de mes surprises aussi, moi, pendant l'enquête. C'est-à-dire de voir à quel point, alors même que j'étais là, des policiers laissaient libre cours à des propos violents, racistes, et à des actes, eux aussi, physiques, d'agression, et me confiaient même leur manigance. Par exemple... une pratique qui consiste, comme les caméras de vidéosurveillance ne filment pas les sons mais seulement les images, à provoquer, à insulter les retenus pour qu'ensuite cela donne l'impression que ce sont eux qui auraient fait donner le premier coup, fait le premier pas. Donc oui, la question des violences en rétention, elle est évidemment cruciale, extrêmement importante. Et sur la question de ce qu'il faudrait faire, alors c'est effectivement, ce n'est pas mon rôle, disons en tant que chercheuse, moi ce que je fais dans ce livre, c'est que je décris les choses telles qu'elles sont, sans emphase, et je pense que les faits se suffisent à eux-mêmes, en fait, pour comprendre ce qui s'y joue. En revanche, c'est évidemment une question que je me suis posée, et une question que j'ai posée à mes interlocuteurs, et je pense notamment à un haut gradé du centre de rétention avec qui je faisais une espèce de grand entretien un peu final au bout de mon enquête. Et on évoquait précisément cette question des violences, des émeutes, des révoltes, des tentatives de suicide, de toutes ces tensions dont les CRA sont émaillés. Et je lui demandais, à votre avis, comment faire pour éviter de telles situations. Et sa réponse, ça a été « Je ne suis pas sûre qu'il faille le noter, mais ce qu'il faudrait, c'est supprimer les CRA et régulariser tout le monde. » Et là, il y a eu un silence, puis il s'est repris et il a dit « Mais ça, c'est pas rationnel. » Et en fait, sans spoiler le livre, je termine sur ces mots et je fais confiance à l'intelligence des lecteurs et des lectrices pour se faire leur propre opinion sur ce qui est rationnel ou non.
Alors, ça ne vous aura pas échappé, nous avons accueilli une quatrième personne autour de la table. Cécilia Adrienne Tonetti, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de la radio Ici Londres. On vous entend habituellement sur les ondes de la radio Béton à Tours. On n'a même pas fait exprès, hein, Radio Béton à Tours. Nous avons beaucoup parlé de la situation en France, mais ce sujet dépasse les frontières. Ça a été vu dans l'actualité, quand même l'actualité est très fournie ces derniers temps. C'est une question européenne et même mondiale, et puis vraiment d'actualité à l'heure où des réfugiés climatiques vont être de plus en plus nombreux. Alors, Cécilia, votre regard européen.
Et oui, tout à fait. Moi, je viens vous parler d'une question qui plane sur l'Europe depuis le 17 juin 2026. Est-ce que l'Union européenne a encore quelque chose à envier à Donald Trump en matière de répression migratoire ? Alors oui, je sais, la question peut paraître provocatrice. Et pourtant, le nouveau règlement retour adopté à cette date par le Parlement européen constitue un durcissement majeur de la politique migratoire de l'Union par 418 voix pour, 218 contre et 30 abstentions. Les eurodéputés ont validé de nombreuses mesures pour accélérer les expulsions et limiter aussi les recours quand une demande d'asile est refusée. Parmi les mesures les plus controversées, c'est la création de hubs de retour hors de l'Union européenne qui suscite l'inquiétude. Des sortes de CRA, dont on a parlé aujourd'hui, des centres de rétention administrative externalisés par les États membres qui pourront, s'ils le souhaitent, y transférer des migrants et des migrantes déboutés. Les mineurs, à noter que les mineurs non accompagnés seront exclus de ce dispositif européen des retours, mais ça c'est contrairement aux familles avec mineurs qui, elles, sont concernées. Plusieurs destinations sont aujourd'hui évoquées pour ces centres dans des pays tiers. Il y a le Rwanda, l'Ouganda, l'Ouzbékistan. Et à noter aussi que l'idée de créer ces hubs de retour, je précise, sans lien avec le pays d'origine des migrants et des migrantes, est, elle, pas nouvelle. Elle a déjà été testée par l'Italie de Giorgia Meloni en Albanie, avant même l'examen de la demande d'asile des migrants et migrantes concernés, contrairement en revanche à ce que prévoit la nouvelle loi européenne. Ce texte généralise ce modèle et généralise ce modèle et étend également les motifs de détention et porte sa durée maximale à 24 mois, durée qui repart à zéro si la personne est transférée dans un autre pays de l'Union. Autre sujet de controverse, le texte ouvre même la voie à une coopération avec les autorités talibanes en Afghanistan afin de faciliter certains retours. Mais le débat ne porte pas seulement sur le contenu du règlement, il porte aussi sur son élaboration politique. Le texte a été écrit par le Parti populaire européen et les trois groupes d'extrême droite du Parlement via une boucle sur la messagerie WhatsApp révélée après le vote en commission par la DPA, donc la principale agence de presse allemande, et Euractiv. Donc François-Xavier Bellamy, qui est eurodéputé français du PPE et vice-président des Républicains, il négociait en secret avec l'extrême droite, y compris avec l'AFD allemande, un parti néo-nazi. Et selon donc les messages consultés par Euractiv, ils échangeaient des amendements, ont fêté même l'adoption du texte en commission le 9 mars. En tout cas, il faudra du temps aux États pour mettre en place de tels projets en accord avec les pays tiers qui les accueilleraient. Le centre en Albanie, lui, est par exemple longtemps resté vide en raison d'une série de contestations judiciaires. Et la France s'est d'ailleurs montrée sceptique sur de tels centres. L'Espagne s'y est même opposée, y voyant une menace pour le respect des droits humains. Mais une chose est certaine, ce vote pose une question fondamentale. Jusqu'où l'Europe est-elle prête à aller au nom du contrôle de ses frontières?
Merci Cécilia.
Complet et ça appelle évidemment un commentaire de votre part, sans doute, Louise. C'est, votre bouquin est sorti avant, évidemment, l'adoption de la loi que Cécilia évoque. Mais...
Oui, il est sorti avant, mais il tient tout en lui. C'est-à-dire, c'est en fait, disons que les dynamiques que j'y ai observées et qui datent de la période de mon enquête, en fait, elles n'ont cessé non seulement de perdurer, mais de se renforcer. Et ce qu'on voit, c'est en effet que l'enfermement a de beaux jours devant lui, en France, comme... à l'échelle européenne, et que ça ouvre toute une série de questions. Et donc c'est vrai que quand, début janvier 2026, il y a eu toute une indignation générale en France face à ce qui se passait aux États-Unis, aux pratiques meurtrières de l'ICE, la police anti-immigration américaine, c'était, on ne pouvait que saluer cette mobilisation collective, mais c'est vrai que ça appelait surtout à regarder ce qui se joue devant notre porte et ce qui nous attend. Or, ce qui nous attend, c'est tout ce que vous avez décrit, c'est une systématisation de la rétention, y compris envers des catégories de population qui, jusque-là, étaient protégées à certains égards. C'est une extension, vous l'avez dit, de la durée de rétention qui passe de 18 à 24 mois maximum en Italie, surtout tout ce que vous avez dit, évidemment, sur les plateformes de retour. Et j'ajouterais aussi autre chose qui concerne les zones d'attente, qui sont les lieux installés aux frontières, notamment dans les aéroports. Aujourd'hui, il existe des zones d'attente en France, notamment, qui sont des zones de fiction juridique décrites comme extraterritoriales, comme si on n'était pas encore en France. Et donc, à ce titre, on peut y enfermer les personnes. Aujourd'hui, jusqu'à 26 jours. Et en fait, avec ce nouveau pacte, cette durée est étendue à 6 mois, ce qui, évidemment, là encore, pose... de nombreuses questions, et j'ajouterais que le pacte autorise là aussi des perquisitions à domicile et des arrestations massives qui là aussi font largement écho à ce qu'on a vu aux États-Unis. Et ce que ça montre, de mon point de vue, c'est à quel point les centres de rétention, le contrôle migratoire relèvent d'une forme de politique spectacle qui vise à montrer qu'on fait quelque chose, qui vise à montrer qu'on est ferme, mais une politique spectacle qui a des conséquences bien réelles. Puisque effectivement, en enfermant plus loin des regards, plus loin des normes européennes, on met à mal l'accès aux droits, mais aussi la santé mentale et physique des personnes concernées.
Une relance, une dernière question, Cécilia,
Non, j'ai trouvé que c'était très complet. C'était difficile de résumer la situation en 3 minutes seulement, parce que ça, c'est un texte qui est long, qui a énormément de mesures mises en place. Mais je pense que vous avez très bien complété, justement, ce qu'on disait à ce sujet.
Une dernière phrase de conclusion, ou quelques phrases de conclusion.
Peut-être juste rappeler, parce qu'on ne l'a pas encore dit, que les centres de rétention, ce sont des dispositifs qui sont très coûteux en termes de budget public. La lutte contre l'immigration irrégulière, ça représente environ 2 milliards d'euros par an. Un placement en centre de rétention, 16 200 euros au bas mot, c'est les cours de les chiffres 16 000, de la Cour
16 200
des comptes.
Euros par
placement, par personne, par placement en centre de rétention.
Pour une durée
c'est
moyenne.
Une durée moyenne et au bas mot, parce que ça ne prend pas en compte le contentieux, etc. Et pourtant, ce sont des dispositifs qui ne répondent pas ou très peu aux objectifs affichés. Il faut bien savoir que moins de 40% des personnes enfermées sont réellement expulsées et près de la moitié parmi elles le sont au sein de l'Union européenne dans le cadre de règlements comme le règlement de Dublin qui permet de renvoyer une personne dans le premier pays dans lequel elle a été identifiée. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que ce sont des dispositifs qui finalement posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. voilà, ce qui pose une fois encore cette question de leur légitimité.
Très bien, Louis Tassin, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci au public pour sa participation. Merci Marc, mais je pense que vous allez refaire un petit tour peut-être dans cette montée Airbus.
Je crois que là Louise a bien conclu, mais ouais. Moi je voudrais quand même dire, et je voudrais que vous relayiez, vous le public qui êtes là, le fait que Ici l'ombre mérite encore plus son nom depuis qu'on a tendu cette magnifique toile, qu'on a installé des tapis moelleux et que vous êtes nombreux à venir assister et participer à des émissions. Donc faites de la pub pour la radio.
Qu'on y aborde l'ombre des politiques publiques, wow, et des politiques d'expulsion.
Allez, on finit là-dessus.
On l'embauche. Vous dire juste après, à 15h30, Louis Tassin fera une signature de son livre à la librairie qui est au cœur du parc de la Baume. Vous dire qu'à 16h30, il y a des ateliers qui vont se tenir ensuite, l'un autour de la surpopulation carcérale, l'autre qui poursuit ses questions autour de la migration et de l'accueil. Ça s'appelle « Des murs et des vies ». On y retrouvera Chloé Peterman, Pascal Jacquin, qui travaille à la CIMADE. Vous dire aussi qu'il y a une exposition au parc qui s'appelle « No Man's Land » de la photographe Paloma Lodé. Également sur ces questions migratoires et de clôture. Vous dire que ici, si vous voulez rester sur ces tapis moelleux, tout de suite, on enchaîne avec Supermix, qui est concocté par Bruno Seriba. C'est parfait pour une sieste sonore, sélection de sons, d'extraits de reportages autour du thème de nos rencontres. Ça peut être le temps d'une pause avant d'enchaîner, pourquoi pas, avec la suite de nos rencontres. Il ne reste plus qu'à toutes et tous vous remercier, Louise, Cécilia, Marc, le public.
Merci,
et bien sûr, Manon et Quentin à la technique. Merci à tous, à toutes, et bonne rencontre.
Merci.